Et tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle on répond souvent, mais pas foncièrement. Un temps d'échange à la rencontre de professionnels qui nous parlent de leur métier, de leur parcours, de la réalité du terrain. Une façon de découvrir ou redécouvrir une profession, et pourquoi pas même se découvrir une vocation. Bonjour et bienvenue dans « Et tu fais quoi dans la vie ?», l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui nous racontent leur métier. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Lilian.
Bonjour.
Bonjour, enchantée Lilian et merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Avant de parler de ton métier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ?
Eh bien, Lilian, 30 ans. Alors j'ai toujours été passionné de bricolage, architecture. Après, sport extrême, donc skate, ski, vélo et puis rugby. Voilà.
Et Lilian, tu fais quoi dans la vie ?
Je suis tailleur de pierre.
C'est assez fou comme métier, je trouve. C'est vrai que le métier de tailleur de pierre, c'est un des plus anciens du monde, je pense, hein, qui existe. Et quand on entend ce métier, on pense souvent savoir ce que c'est. Mais finalement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'être tailleur de pierre ?
Alors aujourd'hui, être tailleur de pierre, ça va être beaucoup des projets de rénovation, des ouvertures de fenêtres, des escaliers. Après, on peut être sur de la création type fontaine, pilier de portail, vasque de salle de bain, évier de cuisine, plan de travail. Tout est possible en pierre.
Donc en fait, on peut dire que c'est le travail de la matière pierre
qui
va prendre différentes formes, de la restauration ou de la création, et tu vas en faire différentes choses. C'est
ça ? Exactement, c'est bien résumé.
Et d'ailleurs, est-ce que tailleur de pierre, c'est un terme générique ou est-ce qu'il existe plusieurs types de métiers et de spécialités autour de ce travail de la pierre ?
Alors oui, il existe plusieurs spécialités. On va avoir la sculpture, la gravure et la marbrerie, enfin plus la taille de pierre. Donc ça va tout passer par un cursus de taille de pierre en CAP obligatoire. Et après, on peut avoir des spécialisations sculpture, gravure ou marbrerie. Voilà, c'est ces quatre grands métiers-là, mais ça passe quand même tous par le cursus de tailleur de pierre. Ça.
Et toi, tu as une spécialité ?
Non, après, j'ai pas passé de diplôme, mais on va dire que de moi-même, je suis allé chercher gravure, un peu de sculpture, mais voilà.
Trop bien. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans ce métier ? Est-ce que tu as eu un déclic ? Est-ce que ça a été une rencontre ?
Alors, je pense que je l'ai au fond de moi depuis que je suis tout petit, parce que mon père a toujours fait de la brocante, antiquité. Donc, depuis que je suis petit, j'ai eu faire à pas mal de métiers artisanaux. On va dire que mes parents ont su me transmettre cette passion de l'artisanat, entre guillemets, ce respect des métiers artisanaux. Et après, je dirais que oui, quoi, tout ce qui est château, etc., j'ai toujours été émerveillé quand je suis allé les voir. Donc, je pense que naturellement, je me suis dirigé là-dedans, mais ça reste quand même hasardeux.
Ok. Et tu te souviens quand même du moment où tu as découvert ce métier-là ?
Alors, j'ai découvert ce métier quand je me suis inscrit pour le CAP, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je pensais monter des murs en pierre, type pierre sèche, les murs en pierre dans le sud. Mais non, c'est tout autre chose. Et donc, j'ai à peu près découvert ce métier en m'inscrivant à l'école.
Et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble une journée type pour toi ? Tu passes plus de temps à l'atelier, sur des chantiers, tu dessines, comment ça marche ?
Alors, la plupart du temps, ça va être en atelier pour tout ce qui est fabrication. Moi, je ne fais pas énormément de pauses dans mon entreprise, mais on va dire qu'il y a des entreprises qui fabriquent et qui posent. Moi, principalement, je taille pour des maçons qui vont faire la pose. Mais donc oui, moi, je passe la plupart du temps en atelier. On va commencer par le tracé pour avoir nos dimensions, etc. Et à partir de là, dans les blocs de pierre, on débite les blocs capables, donc c'est-à-dire les blocs qui peuvent contenir notre pièce. Et ensuite, c'est taille manuelle, électroportatif, meuleuse, etc. Mais oui, c'est finition à la main, quoi.
D'accord, ok. Donc à chaque fois, c'est ça, t'as un brief ? Et tu définis selon ce qui est écrit, faut que tu fasses les bonnes choses.
C'est ça, on va commencer, c'est ça. Dessin qui va nous donner des cotes, etc. Et à partir de là, on débite nos blocs aux dimensions voulues et on taille.
Et tu vas pas sur le terrain ?
Alors, j'en fais un petit peu, mais c'est pas le plus gros de mon activité.
Et quand tu dis que tu es tailleur de pierre, c'est quoi le plus gros cliché ou la plus grosse idée reçue qu'on a sur ton travail ?
Alors, on m'a déjà dit, mais tu fais quoi du coup ? Des menhirs ?
Bah ouais.
Voilà, c'est ça. Donc les gens n'ont pas conscience de ce qu'on peut encore faire en pierre et pas forcément conscience de ce qui est possible de faire avec la pierre. Donc je pense qu'on s'arrête aux menhirs, oui.
Selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon tailleur de pierre ?
Alors, les qualités indispensables, ça va être une bonne représentation 3D, visualiser sa pièce et son projet dans l'espace. Ensuite, c'est une bonne compréhension de la géométrie, puisque tous nos tracés, enfin toute pièce se réalise par des tracés géométriques. Et enfin, patience et rigueur, je dirais.
Patience et rigueur.
Chaque pierre, on va dire que ça dépend des projets, mais on peut passer des fois 4-5 jours sur la même pierre. Donc c'est, chaque geste doit être juste, sinon...
Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs ?
Ben, on ébrèche ou on casse un bout de la pierre. Après, on a toujours des façons pour camoufler. Mais...
Et ouais, comment vous faites ? Faut tout refaire ?
C'est maintenant, on a des colles qui permettent de recoller les morceaux cassés. Il y a des mortiers de ragréage qui permettent de reprendre certains manques sur la pierre. Voilà, c'est... Mais bon, dans l'idéal, on évite de passer par les étapes de réparation. Quoi.
Et on imagine en effet qu'il faut de la précision, de la patience. Est-ce qu'il faut aussi une certaine sensibilité, tu crois ?
Ouais, je pense que oui. Parce que chaque pierre qu'on va travailler est un peu différente. Il faut quand même assimiler la matière en elle-même. Elles ne réagissent pas toutes de la même façon. Donc oui, il faut une certaine sensibilité à la matière. Et je dirais oui.
Est-ce qu'on peut revenir juste un peu sur ton cursus ?
Oui.
C'est quoi exactement ? Il y a un cursus précis ou il y en a plusieurs pour en arriver là ?
Alors, il y en a plusieurs. Moi, je suis passé par un bac général littéraire. Ensuite, je suis revenu à un CAP. On m'avait proposé un CAP en un an, vu que j'avais déjà un bac général. Mais mon patron de l'époque avait insisté pour que je fasse un CAP en 2 ans. Je le regrette pas. Et ensuite, BP, métier de la pierre, en 2 ans encore. Et après, on peut partir sur des spécialisations type gravure, sculpture. Oui, encore d'autres diplômes. Après, ça va plus être dans vraiment des tracés techniques, plus vraiment de la taille de pierre. C'est plus tout ce qui est tracé.
C'est ce qu'on appelle les métiers d'art, ça ouais, en fait partie.
C'est ça, oui.
Et quel est selon toi le plus beau compliment que l'on puisse faire à un tailleur de pierre ?
Le compliment, à vrai dire, je ne sais pas, mais juste le sourire des gens à la fin de la réalisation de leur projet, quand ils voient l'ouvrage fini, c'est quand même toujours agréable à voir. Ouais.
Donc c'est plutôt la réussite finale.
Oui, c'est ça.
Si on ouvrait une caisse à outils aujourd'hui, quels seraient les 3 outils dont tu ne pourrais absolument pas te passer aujourd'hui ?
Ben, une équerre, une massette et une broche. On va dire que c'est à partir de là que tout commence, l'équerre qui va servir à tracer et la massette et la broche qui permettent d'approcher la forme. Alors ce ne sera pas une finition nickel, mais on va dire qu'on peut réussir à faire tout ce qu'on veut sur une pierre avec une massette et une broche déjà.
Tu peux nous dire à quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est exactement ? Parce que tu vois, moi, je ne suis pas sûre de savoir.
Alors, massette, c'est un marteau un peu plus lourd qui nous permet de taper avec puissance. Et la broche, c'est l'outil de base pointu qu'on voit assez régulièrement. C'est classique, je ne saurais pas.
C'est dur à décrire.
Ouais, c'est un pic, en gros, si vous voulez. Mmh. C'est vraiment une pointe sur laquelle on peut taper, qui permet d'éclater la matière. Enfin, on va dire que c'est l'outil qui nous permet d'approcher au plus près une matière finie. Quoi.
Ok. Tout de suite, c'est le moment musique de l'émission et c'est Lilian qui a choisi le morceau que l'on découvre tout de suite. On se retrouve juste après.
Some people say I'm a no count. Others say I'm no good, but I'm just a natural born traveling man, doing what I think I should, oh yeah, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback, a dollar, spend it as fast as I can, for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh yeah, the only things that I understand, yeah. When I was a little baby, my mama, she said, son, travel where you will and grow to be a man and sing what must be sung, poor boy, sing what must be sung. Greenback a dollar, spend it as fast as I can, for a wailing song and a good guitar, the only things that I understand.
understand. Now that I'm a grown man, I've traveled here and there, and I've learned that a bottle of brandy and a song are the only ones who care, oh Lord, the only ones who care. Greenback dollar, spend it as fast as I can for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh yeah, the only things that I understand. Ooh, yeah. 'Cause some people say I'm a no account, others say I'm no good. But I'm just a natural-born traveling man, doing what I think I should, oh yeah, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback dollar, spend it as fast as I can for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh yeah, the only things that I understand, that's all that I understand, poor boy, that's all that I understand.
Calade. Et tu fais quoi dans la vie? De retour dans Et tu fais quoi dans la vie, en compagnie de Lilian, qui est donc tailleur de pierre et qui nous parle de son métier. J'aimerais aussi qu'on puisse parler un peu d'intelligence artificielle, dans le sens où aujourd'hui on parle beaucoup d'IA et de métiers qui évoluent très vite. Et à l'inverse, en effet, les métiers manuels et artisanaux semblent vraiment trouver de la valeur aujourd'hui. Comment tu vois l'avenir du métier de tailleur de pierre?
Alors, c'est oui, nous la commande numérique, ça fait depuis 10 ans, je pense que ça a bien envahi le marché. Alors ça permet, on va dire, dans nos métiers, enfin dans mon métier, de dégrossir les pièces, etc. Mais il y a toujours la main de l'homme qui est nécessaire pour finir le travail de la machine.
Tu peux nous dire où est-ce que c'est exactement?
C'est, alors ça va être dans la finition, entre guillemets, c'est... Nous, quand la pierre est finie, on en fait ce qu'on appelle une finition dessus. Donc ça peut aller par plusieurs outils, ça donne l'aspect final de la pierre. Souvent, c'est une finition qui est faite à la main. Après, tout ce qui est taille de moulure, à dire des décaissés déviés, etc., tout ça, ça reste la main de l'homme qui le fait, ou aidé par une machine, mais ce n'est pas encore une machine seule qui le gère. Je pense que ça va arriver dans les années à venir. Mais oui, on va dire que ça commence à envahir le marché, mais il y aura toujours la main de l'homme qui sera nécessaire.
Ouais, aujourd'hui, il y a des machines, c'est ça, qui taillent de la pierre, mais il n'y a jamais de précision, ou du moins de...
Il y a une précision, on arrive à dégrossir la forme. Tout ce qui est moulure, etc., les machines arrivent à l'approcher, mais si vous voulez, à l'œil, c'est pas assez fini proprement pour que ce soit acceptable, quoi.
Est-ce que c'est un job qui attire les nouvelles générations?
Je pense que oui. J'ai pas mal de... Moi, j'ai déjà 2 jeunes qui m'ont demandé pour des apprentissages ou des stages. Après, je pense que la méconnaissance du métier fait qu'on n'a pas beaucoup de jeunes qui se dirigent là-dedans. Mais c'est plus par une méconnaissance que vraiment par le métier en lui-même, je pense.
Et c'est un métier, c'est un savoir-faire justement qui est facile à transmettre?
Oui, c'est comme tout. Hein. Si on a envie de transmettre, voilà, et c'est pareil, si la personne est réceptive en face, qu'elle a envie d'apprendre, il n'y aura pas de souci. Après, c'est des gestes. Mon premier patron m'a dit que le geste parfait arrivait au bout de 10 ans de métier. Donc
Ah ouais, ça, toi, tu les as passés les 10 ans là?
Ouais, c'est ça.
Et t'en penses quoi?
Eh ben, ça s'apprend, hein, avec rigueur et patience, comme on disait tout à l'heure, on y arrive.
Et je me suis demandé, en effet, quand tu te balades dans une ville ou que tu visites un monument, est-ce que tu arrives encore à le regarder comme un simple visiteur, ou est-ce que ton œil de professionnel, justement aguerri, repère immédiatement ce qui échappe aux autres, c'est-à-dire, je ne sais pas, des restaurations, des imperfections?
Je pense que oui, j'ai un regard différent par rapport à la plupart des gens sur des monuments en pierre. Oui, ça, c'est souvent que je me balade avec ma chérie, que je lui montre, t'as vu, ils ont réparé là, machin. C'est en effet, pour moi, c'est des évidences, ça saute aux yeux, et je pense que pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Mais oui, ça apporte
sur
forcément...
tout type de monument historique.
Oui,
c'est... grosso modo.
C'est... Oui, oui, on voit les restaurations, on voit où est-ce que ça a été repris, les agrandissements, enfin c'est... Oui, pour nous, c'est une évidence. Oui.
Et quel est le chantier ou la réalisation dont tu es le plus fier ?
Alors, c'était il y a 2 ans, quand je me suis installé à mon compte, j'ai été démarché par la Fondation du patrimoine pour refaire un puits style Renaissance à Amplepluie, le puits de Rébé, enfin dans le château de Rébé. Donc c'est un joli puits Renaissance que j'ai entièrement refait à neuf, reposé. C'est ma plus belle réalisation en tant que tailleur de pierre.
Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que tu aimais vraiment ton métier ?
Ouais, typiquement, quand je suis allé à Guédelon avec mon école, quand on était en BP, et on a eu le droit de visiter tous les lieux un peu interdits au public. Et là, on se sent un peu privilégié de pouvoir...
Tu peux nous préciser où c'est et ce que c'est ?
C'est Guédelon, le chantier médiéval. C'est un château médiéval qui est refait avec les méthodes traditionnelles de l'époque dans le Morvan.
Voilà. Qui est assez exceptionnel ?
Ouais.
Quand oui, tu es tailleur de pierre, c'est assez fou.
Oui, on revient aux bases du métier, tout à la main, pas de meuleuse. Donc oui, c'est assez impressionnant de voir faire ça, sachant que quand on parle de rentabilité...
On n'y était pas à l'époque, c'est ça ?
C'est ça.
Et quand tu travailles une pierre, c'est vrai qu'en sachant qu'elle sera peut-être encore là dans plusieurs centaines d'années, est-ce que ça apporte une dimension différente à ton travail ? Ça change ton rapport au travail ?
Ouais, c'est oui, oui. Partout, je commence à voir des réalisations que j'ai faites un peu partout, quand je passe en voiture ou quoi. C'est certaines satisfactions de se dire que je ne serai peut-être plus là, mais qu'elle sera encore là.
Donc il y a une saveur particulière quand même, hein, ouais. Au fait de laisser une trace aussi durable. Hein.
Oui, c'est ça. Laisser sa trace, c'est le terme. Oui.
Et est-ce que si c'était à refaire, tu choisirais encore ce métier ?
Ouais, sans aucun doute. J'ai trouvé ma voie, là. Je me fais plaisir tous les jours.
Même t'es heureux de te lever et d'aller bosser.
Exactement.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Exactement.
Et si un jeune nous écoute aujourd'hui et qui se dit « Pourquoi pas moi ?», quel conseil tu pourrais lui donner ?
Je lui conseillerais de toujours chercher plus, de ne pas s'arrêter à ce qu'on apprend à l'école, de ne pas s'arrêter au simple CAP. Parce que c'est un métier qui est vieux de 2500 ans, 3000 ans d'histoire. C'est pas en 2 ans de formation qu'on en apprend toutes les ficelles. Donc je lui conseillerais de chercher par lui-même à toujours en apprendre plus, de pas hésiter à faire plusieurs régions. Parce qu'en fonction des régions, les matériaux sont pas les mêmes, les techniques de travail sont différentes. Donc ouais, d'être curieux de son métier et de pas hésiter.
Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que selon où tu es en France ou même à l'étranger, ça n'a rien à voir en termes d'approche.
Oui, oui, carrément.
Là, les pierres sont forcément différentes.
Oui, déjà, chez nous, on passe Bretagne, on est sur des granites, donc c'est des pierres très, très dures. Après, on descend dans le sud, c'est des pierres un peu plus tendres, ça se taille limite à la main. Enfin, on va dire qu'avec des outils acier classiques, on peut réussir à les travailler avec une lime. Déjà, rien que nous, en France, on a une géologie incroyable en pierre. Et si on va chercher partout dans le monde, oui, il y a vraiment des techniques différentes, des approches différentes en fonction de la pierre.
Ouais. C'est où que c'est plus facile d'être tailleur de pierre ?
Ce serait plus facile dans le sud.
Dans le sud, hein, comme tu disais. Je te propose de continuer avec un petit portrait chinois. Chaque fois, je vais te proposer de dire « et si ton métier était ?» et de continuer ma phrase. « Si ton métier était un monument ?»
Je dirais Notre-Dame de Paris, chez nous.
Alors, c'est vrai que ça a remis en relief votre métier.
Exactement.
Oui. Ça a vraiment été... on a reparlé de vous aussi à ce moment-là. Hein.
C'est ça. C'est, oui, on a vraiment reparlé. Enfin, même tout ce qui est charpente, etc. Ouais. C'est, oui, ça a permis aux gens de redécouvrir quelque chose qui n'était pas forcément acquis de tous, entre guillemets.
Ouais, c'est fou. Et c'est à ce moment-là où on a reparlé beaucoup des métiers d'art, du fait que vous fassiez partie du patrimoine.
C'est ça.
Et qu'il y avait des places à prendre, surtout.
Exactement.
Et que c'était aussi des métiers d'innovation. Si un tailleur de pierre était un outil ?
Je dirais une massette. C'est notre outil de base. C'est, oui, en général, les tailleurs de pierre sont connus pour être assez bourrus.
Ouais.
C'est bien représentatif de la massette.
Même dans le sud, ils en ont besoin ?
Ouais.
Si un tailleur de pierre était un film ?
Je dirais Le Seigneur des Anneaux, peut-être, qui pour moi est une exception du cinéma. Et c'est, oui, la taille de pierre, c'est vraiment, pour moi, ça représente tellement... Enfin, on peut arriver à faire tellement de choses et qualitatives. Et même en sculpture, on arrive à avoir des marbres tellement fins qu'on arrive à reproduire de la dentelle. Enfin, c'est...
Et c'est quoi le rapport au film ?
C'est la perfection.
La perfection, ok, cool. T'adores ce film et t'estimes que ton métier, il a un rapport aussi à l'excellence, t'as raison.
Oui, bah, puis après, on va dire que même dans ce film-là, on a des ouvrages architecturaux qui sont quand même sortis de...
Mais c'est vrai. Et si un tailleur de pierre était une couleur ?
Alors, localement, je dirais un peu les ocres des pierres dorées. Mais après, chaque région a, on va dire, sa couleur de pierre bien définie. Donc, pour nous, on va rester sur les pierres dorées. Quoi.
Et si enfin un tailleur de pierre était un bruit ?
Je peux vous le faire écouter.
Ah oui, avec plaisir. Le fameux.
Voilà, donc ça c'est la massette sur l'outil. Pardon, j'étais un peu.
La massette sur. Comment s'appelle déjà le pic ?
La broche.
Sur la broche. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, ce bruit ancestral.
Je me revois là au CFA, on était 15 dans la même classe où il y a ce bruit qui est en continu. C'est vraiment représentatif pour moi.
Du métier.
C'est ça.
Et en plus, t'en es pas saoulé et t'es encore content de bosser. Donc ça, c'est merveilleux.
Exactement.
Merci beaucoup, Lilian, pour ce chouette échange. C'était vraiment intéressant.
Merci à toi.
Et merci à tous pour votre écoute. Et à très vite pour une nouvelle découverte métier.
Calade.
Et tu fais quoi dans la vie ?
Sur le 100.9 et radio-calade.fr. La 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 da.